la première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
Le thème général de Summer of Photography, c'est « Résiste ». Cette exposition aussi est totalement emblématique parce que, évidemment, c'est un grand moment de résistance dans l'histoire contemporaine et son travail photographique a été un acte de résistance extraordinaire.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58 ?
Absolument.
Petite place de Belgique.
Les Kaliskis.
Mon œuvre.
Allez, on s'inquiète.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach. Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture,
authentique me tento me tentententum steli.
Le monde invisible.
Bruxelles était de la photographie second volet.
Claude Raymond Dittivon, des événements de mai 68 à Paris. Alors, ensuite, on a Bruno Barbet, qui est également donc en mai 68 à Paris. Ici, on a deux photographies de Christian Carrez, de l'ULB, en 68 également. Les photographies de Joseph Koudelka, donc nous en avons deux, du printemps de Prague.
Au botanique, Joseph Koudelka, invasion Prague 68.
On a ici une photographie de Franz Pans, qui photographie en fait une manifestation contre la guerre du Vietnam à Bruxelles. Et ici, c'est en 67.
Avec Annie Valentini, Andreas Hauser, Marie Papazoglou, Georges Verchoval.
Ici, c'est une photographie de Philip Jones Griffith de la guerre du Vietnam. Les photographies de Marc Ribou, de la grande manifestation qui a eu lieu en novembre 67 à Washington, donc contre la guerre du Vietnam encore une fois. Deux photographies de Dominique Beretti de l'Algérie, en fait en janvier 60.
Andrea Hauser.
Je sais que je suis un piètre remplacement pour Joseph Koudelka, qui va vous raconter un petit peu l'histoire de cette exposition.
Alors Joseph Koudelka, c'est une légende vivante de la photographie. Il a jusqu'à présent fait des travaux absolument incroyables qui ont vraiment marqué l'histoire de la photographie. Moi, j'ai découvert au départ surtout son travail sur les Gitans, qui est vraiment un travail personnel qu'il a développé pendant pratiquement toute sa carrière. Et j'ai découvert par la suite, en fait, ce travail-ci, donc sur l'invasion de Prague en 1968, qui est pourtant le travail qu'il a vraiment propulsé, même si d'abord de manière anonyme, vers la reconnaissance internationale.
Qui connaît un petit peu le travail photographique de Joseph Koudelka sait que la série de Invasion Prague 68 est une petite parenthèse de son travail. Il n'est pas un photojournaliste, hein. Il travaille avec la réalité, mais non pas avec l'actualité. Mais bon, c'était un moment très spécial pour lui dans sa vie, parce que en fait, il rentrait le soir du 20 août à Prague, où il habitait, et il entendait à la radio...
Le Monde Invisible est une émission de Thierry Genicot. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Il y avait les soldats hongrois, polonais, bulgares, enfin, c'était vraiment les forces alliées. Bien sûr, il y avait aussi les Russes, mais c'était aussi les forces alliées de l'Union soviétique qui arrivaient la nuit tard du 20 et qui commençaient donc à envahir Prague dans la nuit du 20 au 21 août 1968. Lui, il rentrait, je crois, de la Roumanie, où il faisait des photos pour sa série « Gitan », que vous connaissez probablement si vous connaissez Joseph Koudelka. En fait, ce qu'il a fait pendant toute la nuit, c'est de préparer des rouleaux de film, parce que il n'avait pas les moyens de s'acheter les rouleaux tout préparés. Il achetait les grands rouleaux de films pour faire des films, hein, qu'il coupait pour les mettre après dans son appareil photo. Donc le matin du 21, il était prêt et il commençait à documenter ce qu'il voyait dans les rues de Prague. Pour le 40e anniversaire de l'invasion de Prague 68, Joseph a fait ce livre. Et en fait, l'exposition que vous voyez ici est la version 3D, si vous voulez, de ce livre, qui est son récit des événements entre, je crois, le 21 août et le 27 août de 1968.
Une photographie documentaire.
Les photographies de cette série ont été exportées à l'étranger par des connaissances de Joseph et ils ont été publiés par Magnum, où les films ont fini, sous un copyright qui ne mentionnait pas le nom de Joseph Koudelka pour le protéger lui et pour protéger aussi sa famille. Lui, il est resté dans un premier temps, encore quelques années, en Tchécoslovaquie. Il a été invité dans les années 70 par Magnum, l'étranger, et il a eu l'autorisation de partir. Et c'est en fait là, je crois en 72, qu'il n'est plus rentré après. Et donc, il a commencé à collaborer avec Magnum à partir de ce moment-là.
Marie Papazoglou, la personne qui a parlé, qui est-elle ?
C'est Andrea Holzer, la directrice de l'agence Magnum.
Comme il s'agit vraiment ici le récit d'un fait historique, Joseph a travaillé avec des historiens et avec des archives de son pays pour montrer les événements et la suite des événements à Prague pendant ces quelques six jours, cette semaine.
Je pense que ce qui fait la force en particulier de son travail, c'est que justement, il avait plusieurs rôles en fait, à ce moment historique. Il prenait tout à fait part aux événements, aux manifestations. Il faisait partie de cette foule en fait, qui était en résistance. C'est ce qui rend le travail tout à fait atypique. Et on peut ressentir, en fait, en voyant ces photos, vraiment l'événement depuis son cœur.
Dans l'exposition également, beaucoup de textes pour vous rappeler les événements, la suite des événements. Vous avez les slogans que les Pragois écrivaient sur les façades partout dans Prague. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je crois que c'était le deuxième ou troisième jour où les Pragois ont enlevé toute la signalétique de la ville. Ils ont enlevé les noms des rues, les numéros des maisons, les panneaux des carrefours, pour que, en fait, les envahisseurs se retrouvaient en fait, sur un terrain qu'ils ne connaissaient pas et ils étaient perdus. Toute la résistance passive de son peuple, Joseph l'a documentée.
Charlotte Doyen, nous sommes au musée de la photographie à Charleroi. Voulez-vous nous montrer les images et entrées au mois d'août 1968 à Prague? Marie Papazoglou, pouvez-vous décrire une image pour nous qui ne la voyons pas?
Oui, alors bien sûr, il y a une image qui a fait le tour du monde où on voit une main avec un poignet et une montre devant une place qui est totalement vide. En fait, elle est liée à un événement très particulier de l'époque. Il y a une manifestation d'opposants qui est organisée où énormément de personnes comptent se rendre. Et puis, tout d'un coup, on va se rendre compte que c'est un piège tendu par les occupants. Et malgré les moyens de communication limités à ce moment-là, en fait, vraiment, la population pragoise, de bouche à oreille, va réussir à s'alerter. Et personne ne va venir au rendez-vous. Et donc, c'est un moment très significatif de cette opposition, de cette protestation relativement pacifique, parce qu'elle témoigne aussi de cette immense solidarité, de cette immense union, en fait, qui s'est créée à ce moment-là entre tous les habitants de Prague.
Donc les photographies de Prague réalisées par Joseph Koudelka, on en a deux dans les collections du musée. On les a montrées à cette occasion au Centre culturel Jacques Franck à Saint-Gilles, qui représentent assez bien cette révolution, cette violence et aussi la peur qui s'est emparée des rues. Donc l'image très iconique de la montre de la place Wenceslas et puis qui à l'heure dite en fait est vide. Pourquoi ? Mais parce qu'on a diffusé l'information que les troupes du pacte de Varsovie seraient dans les rues et réprimeraient violemment les contestataires et les manifestants.
Très dense, vous dites, Georges Vercheval, ici au Bataillon.
Oui, c'est très dense. Il y a énormément de choses dites dans les textes par lesquels on aborde l'exposition, qui sont très explicatifs, qui disent assez bien. On ne remonte pas très loin avant, bien entendu, pour dire quelle était l'évolution de la Tchécoslovaquie à ce moment-là, mais quand même, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on n'entre pas dans cette exposition juste pour voir des photos. Hein, on est vraiment dans ce qui s'est passé au moment de ce printemps de Prague, c'est-à-dire à la fin du printemps de Prague, puisque c'est ceci qui fait que le printemps disparaît, s'éteint.
Au mois d'août.
20 et 21 août, oui, c'est ça.
Dans la nuit.
C'est ça, oui.
Les troupes du pacte de Varsovie,
ouais.
Excepté les Tchèques, je suppose.
Oui, des Russes, essentiellement des Russes. Essentiellement des Russes, oui.
Arrivent avec des chars.
Blindés, voilà. Et les gens, surpris, terriblement surpris, sont bouleversés, se disent « qu'est-ce qu'on fait ?» Mais ils ne répondent pas par les armes. C'est une protestation où on crie aux soldats « ça ne va pas, ça ne va pas ». Je vois une photo ici en dessous, une très grande image, qui ne dit pas toute l'image d'ailleurs, parce que ces gens sont en fait en train de tenter d'empêcher. Heureusement, le char n'avance pas. Il y a un char qui est devant, là. Tout le terrain devant, c'est un char, c'est un blindé. Et les gens poussent, poussent. Et je remarque aussi beaucoup d'images où les soldats se questionnent, eux-mêmes, les soldats russes qui sont là, se questionnent. Ils disent, qu'est-ce qu'on fait là? Mais voilà, c'est des soldats, ils sont forcés de... Voilà. Et Koudelka est là. Et il fait des photos, et il fait des photos. Et c'est ça que je dis que c'est terriblement dense, cette exposition, parce qu'il y a beaucoup plus d'images que ce que je connaissais.
Marie Papazoglou.
C'est vraiment un document historique très très important sur cet événement en particulier, mais plusieurs images sont devenues vraiment iconiques parce qu'elles débordent largement cette actualité précise. Elles sont devenues des symboles, en fait, d'un peuple en résistance face à l'opposant.
Pour ceci, ou juste avant, je ne sais pas, quand il a fait une relecture de son travail, là, je vois quelques images qui sont très, très connues. J'ai ici le bulletin photographie ouverte que nous avons publié à Charleroi en 98, quand nous avons montré tout ce qui s'était passé en 68. Cette photo-là, celle de droite, avec les deux gars qui tiennent un drapeau, un grand drapeau, et chacun une main dessus, et ils sont à la fois provocateurs et inquiets, on le voit.
Mais aussi chorégraphiés, presque.
Absolument. Alors, on en vient à un autre sujet par rapport à ce que Koudelka a fait, c'est-à-dire que ceci est du reportage, bien entendu. Enfin, c'est plus du document humain. Ce qui l'intéresse, c'est l'humain et comment l'humain réagit face à une situation comme celle-là. Il faut se souvenir que Koudelka a commencé la photographie, après ne pas avoir terminé ses études pour être ingénieur aéronautique, il part vers la photographie, il fait quelques images comme ça qui sont belles, des panoramiques à la mer, la terre, voilà. Et puis il fait quelques images expérimentales qui sont assez extraordinaires aussi. Et
Georges Vercheval.
Il part vers le théâtre. Ces images expérimentales sont montrées à un directeur de théâtre qui dit « ah, voilà ». Et j'ai vu ces photos de théâtre qui sont extraordinaires.
Avec Koudelka aussi, ce qui est intéressant, c'est que ces images, il les prend sur le vif, il les prend aussi sans vraiment avoir prévu de faire le reportage sur les événements de Prague, puisque avec Georges Vercheval, vous avez eu l'occasion d'en parler à l'exposition du Botanique de Joseph Koudelka, mais... Donc Joseph Koudelka, à ce moment-là, fait des reportages sur les Gitans.
J'ai rencontré Koudelka à plusieurs reprises. Et notamment quand ses photos de théâtre ont été montrées lors d'une rétrospective en Arles en 2002. Et il était là, et on s'est retrouvés là. Et j'ai été frappé par ces images, qui étaient des tirages originaux, de ce qu'il avait fait pour les théâtres, et les photos expérimentales également, et en tirages originaux qui étaient extraordinaire, et il était surpris de voir la réaction des gens, la mienne entre autres, devant ces images-là. Parce qu'on ne pensait pas que Koudelka était quelqu'un d'autre que celui qui avait photographié pendant des années les Gitans, qu'on connaissait bien, qui avait photographié Prague en 1968. C'est étonnant de le voir, effectivement, traiter l'humanité comme s'il traitait du théâtre. Et c'est ce qu'on voit ici tout le temps. Cette femme qui pleure en tenant un drapeau ensanglanté. On se parle depuis le blindé jusqu'à monsieur et madame tout le monde, quoi. Et bon, ça a été la catastrophe. Tout le monde, évidemment, a été terriblement surpris. C'est comme ça.
Charlotte Doyen.
C'est des images qui sont forcément très fortes. Pour la diffusion qui en a été faite, c'est intéressant aussi, puisque jusqu'en 84, elles sont diffusées par Magnum, mais sous un pseudonyme, en fait, puisqu'il ne peut pas signer ces images. Il a trop peur des répressions contre sa famille. Et c'est au décès de son père, en 84 qu'il signe enfin ces images et que voilà, mais c'est vrai que c'est aussi fort et c'est ça dans l'exposition qu'on a voulu montrer aussi, c'était justement la diffusion de ces images.
Et Georges Vercheval, pour revenir à la question du théâtre et aux images que j'ai pu consulter en attendant, je constate que ce théâtre-là est un théâtre expressionniste. Un dramaturge belge y figure, Michel de Gelderode.
Oui.
Et donc on est dans une veine de photo-expressionniste sur un théâtre expressionniste.
Absolument. Il est comme ça, Koudelka. Il faut l'avoir vu déjà agir. Comment il est avec les gens. Je l'ai accompagné lorsqu'il était venu en Belgique pour photographier les carnavals de Binche et de la Louvière une autre fois. Son contact avec les gens est assez étonnant. On n'a même pas l'impression qu'il fait des photographies, mais il fait des photographies. Il ne s'en cache pas et pourtant, il est invisible pour eux. Il est avec eux dans l'action qui se passe. Il est extraordinaire pour ça. Et ses photographies de gitans sont également du théâtre. Hein, si on les regarde bien, il ne se moque pas de la pauvreté, il n'est pas méchant avec eux du tout, mais il les met en scène, sans qu'ils se mettent en scène d'ailleurs, hein, il les voit comme s'ils agissaient dans un théâtre. Il est comme ça, Joseph, il est un photographe exceptionnel. Et les premières photographies qu'il a faites, que j'ai vues dans ce grand livre qui lui a été dédié il y a quelques années, qui sont des paysages de mer, il est revenu sur ces panoramiques quand il a eu des commandes ensuite, hein, pour la mission Transmanche par exemple, ou pour la Datar, hein, ou pour la Fondation L'Ouest. Il a photographié pour des industriels, et ça reste quelque chose de théâtral, mais avec de la matière, là. Avec de la matière, ou avec des usines, ou avec des ouvriers aussi, quand même.
Dans le document, ça c'est évident, c'est la raison aussi pour laquelle il s'est retrouvé très vite intégré à l'agence Magnum, mais pas dans le photojournalisme pur et dur. Pourquoi ? Parce qu'il n'a jamais couvert de news, en fait. Il n'est pas reporter de cette manière-là. Donc les travaux qu'il a fait de type documentaire, parce qu'il documente une certaine réalité, il n'y a pas de fiction, il n'y a pas une narration particulière, sont des travaux qu'il a choisi de développer personnellement, et il a très très peu travaillé pour des commandes, pratiquement jamais pour des magazines ou des revues. En tout cas pas directement, même s'il a été publié.
Comment se comporte-t-il ? Vous dites, il se fond, on ne le voit pas. Il devient invisible.
Oui, là, il n'est pas tout à fait invisible, évidemment. Quand on arrive chez des Gilles qu'on est en train de bosser à 4 heures du matin, au départ, c'est un étranger qui arrive. Mais un étranger qui arrive alors qu'on bosse un Gilles, très vite, il n'est plus un étranger. Hein, on lui offre le champagne, hein, ou autre chose, voilà. Mais c'est le champagne en général. Et il peut, au bout de très peu de temps, se mettre à faire des photographies sans qu'on s'occupe de lui. C'est comme ça. Mais c'est parce que la situation s'y prête aussi, évidemment.
Le dos d'un tirage de presse de l'époque, le copyright, il est mentionné ici, hein, PP. Et en fait, c'était ça, le copyright de l'époque que utilisait Magnum pour publier les photos, pour dire Prague Photographer, donc pas de mention de nom. Et après un moment, quand il était en sécurité et surtout après la mort de ses parents, Joseph Koudelka a publiquement déclaré que ses photos sont les siens et depuis nous les publions avec son copyright à lui.
Bruxelles était de la photographie second volet. Au botanique, Joseph Koudelka, Invasion Prague 68. Avec Annie Valentini, Andreas Hauser, Marie Papazoglou, Georges Vercheval. Au Centre culturel Jacques Franck, Les bruits de l'image, avec Charlotte Doyen.
Ces images, on les connaît aujourd'hui, mais comment est-ce qu'à l'époque, elles ont été réceptionnées, en fait ? Donc, au Jacques Franck, vous pouvez voir aussi quelques magazines qu'on a remis et qu'on compare, puisque toutes ces images, la majorité en tout cas, sont destinées à être imprimées dans des magazines, puisque dans les années 60-70, on est vraiment dans ces picture stories où en fait on a très très peu de textes, mais énormément d'images. Des images qui sont imprimées en grand format. Ces images ont encore un énorme impact en fait aussi, parce qu'on en a moins, je pense, on est moins dans une culture de l'image comme on en a aujourd'hui, et donc elles ont un réel impact, et ces reportages sont imprimés. Je crois que c'est important, quand on est face à une exposition comme ça, de tirage des années 60-70, en tout cas du type de reportage, de toujours se remettre en contexte, de se dire « Ok, je vois une image au mur, mais cette image-là, son but premier était d'être imprimée. » Et je crois que ça permet aussi de la comprendre d'une autre manière, puisque ces images étaient forcément accompagnées de légendes, quand même, puisqu'on est dans des magazines. Des photographies qui, esthétiquement, ont une réelle valeur. Après ça, ça reste toujours subjectif, de toute façon, l'esthétique. Mais qui ont surtout une valeur documentaire et de reportage.
Au Palais des Beaux-Arts, résiste, avec Christine Ayenné.
Question ?
Oui, je vous pose des questions. Nous sommes au Palais des Beaux-Arts, Bruxelles. Pour un été de la photographie qui s'intitule...
Resist. Donc l'exposition Beaux-Arts est axée sur les mouvements de résistance des années 60 à la période contemporaine. En photographie et en technique, utilisant la photographie en technique mixte, allant du collage à l'art vidéo. Christine Ayenné.
Et vous êtes la commissaire de
oui.
cette exposition. Alors à vos yeux, la résistance dans les images... Elle se traduit comment ?
Elle se traduit par la documentation de mouvements de résistance par les photographes. Elle se traduit à la fois dans la force des images, dans l'esthétique de résistance.
Le Monde Invisible est une émission de Thierry Genicot.
On sait que c'est le cinquantenaire de mai 68. Mais là, dans l'exposition, il s'agit vraiment de mouvements de résistance à travers le monde pour sortir du côté franco-français de mai 68 et son association aux étudiants de Paris. Et ici, on est dans la section, j'appellerais, de photojournalisme pur, où il s'agit en fait d'images prises par des photographes qui témoignent de leur temps. Et on commence par les années 60, en fait. On commence au début des années 60. Mais quand on entre dans l'exposition, on commence par la construction du mur de Berlin en 61. Parce qu'on parle souvent, en fait, dans les mouvements de résistance, de la chute du mur de Berlin en 89, mais c'était important aussi de revenir justement à cette histoire visuelle. Et donc, on voit donc, la construction du mur. Donc, il y a des œuvres de Pardon, Yann Dury et Bert Klein. Dans les images, j'ai sélectionné des images d'enfants aussi, parce que quand on regarde ces images et qu'on se projette 20 ans plus tard, ou 28 ans plus tard, donc entre 61 et 89, c'est peut-être cette génération en fait, qui a contribué à la chute du mur de Berlin. Donc c'est cette génération qui grandit avec l'austérité qui est ambiante à cette époque-là, mais qui en même temps, ça a peut-être semé les graines d'activisme dans ces enfants-là. Et, donc voilà, on commence avec ça en 61.
Charlotte Doyen.
Une photographie de 1980 d'une manifestation de métallurgistes à Bruxelles. 5 images de Claude Raymond Dithivon, des événements de mai 68 à Paris. Alors, ensuite, on a Bruno Barbet, qui est également donc en mai 68 à Paris.
Cela nous mène à 68, où j'ai sélectionné deux photographes, donc Bruno Barbet et Gilles Caron. Et en fait, comme ces photographes ont plus ou moins témoigné des mêmes événements, ce qui m'a semblé intéressant, c'est de montrer, en fait, enfin, de mettre en exergue la distinction de leurs pratiques photographiques et des images. Par exemple, chez Gilles Caron, il y a bien sûr cette image du jeteur de pierre, du lanceur de pierre très connu. Et on passe les slogans qui sont sur les murs de l'université, aux assemblées, aux confrontations avec la police, dont la fameuse photo de Daniel Cohn-Bendit.
Qui nargue un policier.
Et on termine par des images en fait, que je trouve très intéressantes parce qu'elles sont à la fois esthétiquement très belles, mais elles montrent un Paris dévasté, mais en même temps pictural d'une certaine manière. Alors dans cette section, en fait, donc on continue toujours dans Bearing Witness, mais ce sont des images d'archives de Beaux-Arts et des images d'archives de l'université de Coimbra qui montre Beaux-Arts l'occupation dans le Hall Horta et à Coimbra les mouvements de résistance et les protestations étudiantes contre la dictature qui est imposée par Salazar. Et ce sont des images, alors cette fois, qui sont non attribuées. Donc on ne sait pas si ce sont des photographes professionnels, des étudiants. Et en fait, c'est une section archive qui fait une sorte de transition avec la section suivante qui, elle, combine à la fois des œuvres créées par des artistes ou des photographes contemporains, la plupart sont encore vivants, et des images d'archives en fait, qui sont introduites dans leurs travaux.
Et Charlotte Doyen, cette exposition, Jacques Franck, s'intitule « Les bruits de l'image ».
Oui, Alors, on est parti sur ce titre donc, avec ma collègue Adeline Rossion, donc avec qui on a préparé cette exposition. On trouvait intéressant le titre « Les bruits de l'image » puisque le bruit, déjà dans la photographie, c'est un terme technique qui signifie déjà presque quelque chose un peu de flou dans une image. C'est un terme numérique, en fait, de la photographie. Et en plus, ces images ont en elles-mêmes fait beaucoup de bruit. La majorité des images qu'on a choisies sont des images qui sont très iconiques, en fait, qui sont presque rentrées dans l'inconscient populaire. Et donc, c'est des images qui ont fait du bruit en leur temps. Et on a joué aussi sur ce terme en fait, technique de la photographie.
Quand nous avons montré en 68 des photographies, en 98, pardon, des photographies de 68 avec des photographies faites à Paris, avec des photographies faites à Prague, Kudelka évidemment, à San Francisco, à Berlin, à Francfort, en Italie, parce qu'il y a des choses qui se sont passées partout à ce moment-là, notamment Ribou, aux États-Unis, quand on manifestait contre la guerre du Vietnam. Quand on a monté cette exposition, j'ai acheté des photos à tout le monde, y compris à Kudelka. Et c'était le double des autres. Même si on était copains.
En rapport avec toutes les images que vous m'avez montrées, quelle est celle que vous allez choisir pour la décrire et qui est la plus iconique à vos yeux ?
Je pense que je partirai sur le même choix que ce qu'on a fait pour notre affiche et notre communiqué, qui est celle en fait de Paul Wörsel. Alors c'est une image qui est très très forte visuellement. C'est une image verticale avec une personne en plein dans son centre qui tient une barre de fer dans sa main et qui est presque mise comme sur un piédestal. En fait, c'est une personne qui est presque une statue, en fait. Et dans le fond, on voit des barricades. Et donc, je trouve cette image très forte et très parlante aussi de cet esprit contestataire et aussi de la photographie qui a été faite de cette contestation. Puisque c'est ça qu'on a voulu aussi montrer dans cette exposition. On a fait une sélection d'images autour de ce thème qui était « Résiste » du Summer of Photography.
Georges Vercheval.
Il sait ce qu'il vaut, voilà. Et puis il en a besoin aussi, il devait vivre. Parce que l'exil, c'est l'autre grand thème de Kudelka. Quand il a dû quitter la Tchécoslovaquie, il l'a quitté tout de suite, évidemment. Il a réussi à exfiltrer ses films tout de suite. Magnum n'en était pas membre encore. Magnum s'est chargé de faire publier ses images dans le monde entier, partout, etc., sans jamais dire que c'était Kudelka. On ne pouvait pas le dire parce qu'il avait de la famille là-bas. On a pu affirmer son nom qu'au début des années 80.
Carès, qui était un photographe très engagé.
Oui, Christian Carès, qui travaillait à l'époque pour Le Point, et puis qui ensuite a travaillé pour, qui est donc un hebdomadaire qui est très engagé à gauche, et réalise des photographies de l'ULB, donc l'Université libre de Bruxelles, en mai 1968. Alors en mai 1968, à l'ULB, il y a eu l'Assemblée libre, en fait, qui s'est créée et qui s'est constituée. Donc les étudiants se sont rebellés contre le pouvoir du recteur et, en fait, se sont rassemblés petit à petit, ont occupé les auditoires. Le Janson a été occupé. Ici, c'est une photographie dans les auditoires de la faculté de droit et où, en fait, ils se réunissaient. Certains restaient tout le temps sur place, d'autres venaient assister, en fait, aux réunions le soir et on discutait. C'est intéressant quand on lit des rapports de l'époque de l'Assemblée libre, on a vraiment une volonté absolue de liberté qui va en fait être presque à l'origine de la fin de l'Assemblée libre en elle-même, puisque personne n'arrivait à prendre de décision, puisque on partait du principe que chacun avait le droit d'exprimer ses idées, ses volontés. Et donc voilà. Sur cette photographie ici, on a Paul Gossens, étudiant emblématique du mouvement étudiant à Leuven, qui s'est battu pour les droits des étudiants flamands, en fait, dans l'université de Leuven. Et puis ici, Moni El-Kaïm, qui est aussi une personnalité assez connue, et qui sont ici sur l'estrade de l'Assemblée libre à Bruxelles, en fin mai, donc 1968. Et Christian Carès, qui est lui aussi à cette époque-là jeune, dans cette mouvance des étudiants, dans cette envie de liberté, qui est clairement en plein milieu de la foule.
Il y avait un danger auparavant, et il le savait, et il ne fallait pas le montrer. Voilà. Mais lui était exilé en Angleterre, exilé en Allemagne un petit peu, exilé en France, etc., un peu partout. Et il s'était intéressé au thème de l'exil, à l'étranger. Il était un étranger et il photographiait les étrangers. Il a fait des choses extraordinaires dans ce domaine, en voyageant un peu partout et en montrant ce que vit l'autre, celui qui n'est pas de là. Et puis il a obtenu la nationalité française en 87, je crois. Il était entré chez Magnum déjà en 74 et sa carrière était partie. Il était chez Magnum quand je l'ai vu là une fois aussi. On l'hébergeait parce qu'il n'avait plus de chez lui. hein, et il dormait par terre.
On n'est pas face à une manifestation, on n'est pas face à un mouvement qui est violent, on est vraiment dans la parole, en fait, qui est aussi très très importante dans la contestation.
Chez moi aussi, il dormait par terre. On lui donnait un lit et il dormait à terre.
Un service de presse en interne à l'ULB, il y a eu des discussions par rapport aux examens, parce qu'on est quand même en mai, donc c'est la période des examens, et on est dans quelque chose qui est quand même relativement respectueux. Et un mouvement qui se veut libre, mais aussi ici, avec ses airs un peu insouciants de ses étudiants, mais positif aussi, je pense.
Il avait mal au dos et que tu avais trouvé que c'était comme ça qu'il fallait faire.
Et Georges Vercheval, pour situer, pour qui nous écoute et qui n'a pas connu par la force des choses, c'est après 68 jusqu'à la chute du mur 89, Prague dans les années 80, les gens... sortaient dans la rue pour parler parce qu'ils avaient peur d'être enregistrés.
Voilà, d'accord.
Donc ouais, il y avait en permanence, un peu comme dans l'Allemagne de l'Est de l'époque, sorte de Stasi ou une...
En même temps, sur le plan culturel, il y avait une vie extraordinaire. Et notamment des journaux, des magazines qui disaient quand même autre chose que ce qu'on les aurait autorisé normalement à dire. Hein, et notamment un magazine slovaque. Hein, qui a été accepté par les Tchèques, ce qui n'est pas toujours le cas, n'est-ce pas ? Et qui a préparé un peu le terrain de ce printemps de Prague, de ce renouveau-là que Dubček, hein, qui est arrivé au pouvoir un jour, a décidé de soutenir, hein, et qu'il a eu bien du mal à soutenir à la fin, et qu'il n'a pas pu soutenir jusqu'au bout. Mais ça, je trouve que cette exposition est extraordinaire parce que beaucoup de choses sont quand même dites dans tous ces textes. On ne remonte pas assez loin en arrière pour expliquer d'où on vient, mais quand même.
Charlotte Doyen.
De Marc-Ribou.
La fleur.
Oui.
Devant les fusils.
On est pleinement dans cette question de l'image iconique. Donc cette image, en fait, de Marc-Ribou. En novembre 1967, à Washington, ici, c'est la fin de la journée devant le Pentagone. Yann Rose Cashmere face à la garde nationale américaine devant le Pentagone, donc dans la fin de la journée de cette manifestation contre la guerre au Vietnam. Cette jeune femme tient une fleur en main et fait face à ses soldats. Cette image a vraiment fait le tour du monde et est devenue une icône d'une génération, aussi une icône du mouvement pour la paix. Et en fait, a permis, mais en tout cas a fait que la principale protagoniste de la scène est elle-même devenue une sorte d'icône pour la paix. Par rapport au contexte de prise de vue, c'est intéressant parce que Marc-Ribou raconte, donc on est à la fin de la journée, lui capte cet instant, alors qu'il y a de moins en moins de photographes qui sont là, moins en moins de manifestants aussi. Il dit aussi avoir lu dans les regards de ces deux groupes en fait qui s'affrontent avec Yann Rose Cashmere et les jeunes aussi de la garde nationale en fait américaine, une sorte de peur et de tristesse de la part de l'un et de l'autre, peur du côté des jeunes gardes nationales qu'on leur donne l'ordre de tirer en fait sur ces manifestants qui en fait au final ils peuvent peut-être comprendre aussi leurs revendications, et Yann Rose Cashmere, ben, c'est une sorte de tristesse aussi, cet air mélancolique qu'elle a sur cette image parce qu'elle découvre aussi la jeunesse des personnes qu'elle a face à elle. C'est intéressant aussi parce que cette image va vraiment être réutilisée par la suite dans plusieurs occasions, notamment en 2003, dans une manifestation contre la guerre en Irak, à Londres, on réemploie cette image et on oppose les termes « peace and war » sur cette image. On est là vraiment face à un réemploi, en fait, dans la photographie, et une image qui est au-delà, en fait, de la photo en elle-même. Elle est remplie de symboles, en fait.
Bruxelles était de la photographie, second volet. Au Centre culturel Jacques Franck, les bruits de l'image, avec Charlotte Doyen, Génération Tahrir, avec les voix de Pauline Beuny, Xavier Cannon, America Parasmart.
Pauline Beuny est une jeune photographe de la région, donc elle est de Gilly, elle est complètement carolo, et c'est une jeune femme qui a fait des études à l'IEX et qui est partie en Égypte étudier l'arabe, et qui a assisté là-bas au début de la révolution du printemps arabe, et donc qui en rapporte un double témoignage, à la fois dans une première partie du photojournalisme et du reportage, et dans une deuxième partie beaucoup plus du documentaire.
Une jeune femme avec un voile qui est devant un cordon de policiers dans une rue du centre-ville du Caire, devant le syndicat des journalistes. Et elle a été prise le 26 janvier 2011, donc c'est juste au tout début de la révolution égyptienne.
Une militante, une photographe engagée. C'est quelque chose d'assez rare. Je crois que dans la photographie sociale, on retrouvera également des gens qui sont complètement engagés. Mais ici, elle est engagée dans le sens où elle prend un parti. Donc c'est un parti pris dans ses photographies. Et elle nous fait découvrir un petit peu le monde underground de la jeunesse égyptienne.
Alors l'autre exposition que nous découvrirons, je la donne dans l'ordre de ma mémoire et pas dans l'ordre d'importance, c'est l'exposition de Pauline Beuny.
C'est presque un retour en arrière plutôt qu'un bond en avant. Dans ses photographies, en tout cas dans la deuxième partie de son exposition, elle dénonce ce découragement des jeunes d'un côté, et puis d'un autre côté, cette volonté, même si découragement il y a en façade, de vouloir forcer les choses et faire bouger les choses, mais de manière beaucoup plus subtile. Pas de manière publique, mais plutôt de manière privée. Elle termine son exposition par des femmes qui enlèvent leur voile. Ça, c'est quelque chose quand même dans le monde de l'islam actuel qui, je ne dirais pas révolutionnaire, c'est un acte fort de la part de ces femmes. Et quand on regarde son exposition, effectivement, on voit cette jeunesse égyptienne qui évolue, qui change et qui a besoin de cette liberté, de cette démocratie qu'on ne lui donne pas. Et d'un autre côté, il y a aussi cette volonté de montrer que la femme s'émancipe aujourd'hui dans l'islam. Et ça, c'est vraiment aussi un acte de militantisme de la part de Pauline, de vraiment se focaliser sur cette mouvance féminine qui est là et qui ne laisse pas sa place aux garçons, mais qui est là également pour se battre.
Et on a encore une photographie dont je n'ai pas le visuel ici, mais qui est de Pauline Beuny, qui est une photographie donc de sa série Génération Tahrir, et qui est une photographie de la place Tahrir, et qui fait le lien en fait avec l'exposition du Jacques Franck.
Je m'appelle America Parasmart, je suis la responsable du service des publics du musée de la photographie.
Vous avez parlé de reportage.
Et de documentaire.
Quelle différence faites-vous ?
Pour moi, la différence est au niveau esthétique, c'est-à-dire que dans la photographie de reportage, on travaille avec le réel qu'on a devant soi. Effectivement, on compose ces images, effectivement, on a des angles de vue qui sont bien particuliers au photoreportage et qu'on reconnaît, c'est une écriture que l'on voit depuis Capa. C'est de voir comment des photographes comme Capa ont mis en avant le fait d'être proche de son sujet, mais également de composer avec le réel qu'on a devant soi. La différence que je fais par rapport au documentaire, c'est que le documentaire est un travail qui est beaucoup plus long, qui ne se situe pas sur le réel visuel qu'on a immédiatement, mais bien quelque chose qui prend du temps, de l'observation, et qu'au niveau composition, on va réfléchir un peu plus.
Pauline a vécu 5 années au Caire pendant le printemps arabe, et c'est donc non pas simplement un reportage de quelqu'un qui débarque et photographie, c'est un reportage partisan, engagé, vécu de l'intérieur aux côtés de cette génération, qu'elle raconte comme une chronique, avec un livre qui est son premier livre, et je dois dire vraiment, je trouve ce livre est magnifique pour un premier livre, elle peut en être fière.
Elle appelle les manifestants à la rejoindre, aller défier la police.
Oui, cette photographie est très intéressante au niveau de sa composition. On voit une femme seule devant une muraille de CRS, égyptien en tout cas, et elle est forte parce que c'est encore une fois l'image de la femme qui en ressort. Donc la femme est partie prenante de cette révolution, elle désire également le changement, et elle lève ses bras dans un espèce de mouvement pour dire « allez, venez, suivez-moi, on y va quoi ». Une photographie qui est à la fois très simple dans sa composition, mais très forte dans le message qu'elle donne. Et cette photographie-ci, je la classe plutôt dans la photographie de reportage. On est avec le réel, on le saisit, et on en donne une interprétation libre, mais avec un beau regard photographique derrière.
J'ai vécu la révolution de l'intérieur, parce que j'avais commencé en 2010 un travail sur la jeunesse égyptienne. Et donc j'ai suivi ces jeunes Égyptiens aux prémices de ces mouvements populaires. Et c'était juste énorme. Et j'ai puisé chez eux une énergie dingue. Et puis après, quand on n'a plus parlé trop d'Égypte, parce que voilà, Sissi est arrivé au pouvoir et c'était un peu mort, et puis on a parlé de l'hiver plutôt que du printemps, ben, moi j'ai eu envie de continuer à parler de l'Égypte et de la jeunesse et de l'espoir qu'il y a là pour moi.
Je l'ouvre au hasard sur 2 femmes voilées, une qui porte un voile noir mais habillée de blanc, et l'autre qui est entièrement habillée de blanc mais avec un voile de mariée. Donc les 2 symboliques du voile, c'est très intéressant. Le voile religieux dans le double sens, celui du mariage et celui de la religion, où on cache ses cheveux de manière pudique et pour montrer aussi son appartenance à une religion et certainement à une croyance. Cette photographie est pour moi beaucoup plus du documentaire parce que on est effectivement dans un fait qui se passe devant nos yeux, mais dans un autre sens, il y a un message qui est beaucoup plus fort et le côté esthétique prédomine beaucoup plus que dans une photographie de reportage. Je ne dis pas que dans une photographie de reportage, il n'y a pas de l'esthétique. Regardons les derniers prix Nikon qui ont gagné. Ce sont des photographies qui sont prises sur le vif, mais qui ont des références à l'histoire de l'art. Je pense notamment à ces photographies où on voit une femme qui tient dans ses bras un homme qui est en train de décéder, une photographie d'Oussine, qui fait vraiment penser à une photographie religieuse. Mais les références, c'est celles qu'on a, qu'on y colle. Donc je ne pense pas que quelqu'un qui a vécu l'islam verrait dedans une vierge à l'enfant, une vierge avec Jésus dans ses bras, il verrait certainement autre chose. Donc les références sont également des références culturelles. Mais en tout cas ici, ce qui est intéressant, c'est que Pauline s'attarde sur la conception du mariage et sur le mariage, que ce soit en Occident ou en Orient. Le mariage est quelque chose d'important, peut-être moins dans notre société actuelle, mais il a eu son importance. Et ici, ces deux femmes qui portent des voiles, l'un religieux et l'autre du mariage, l'une qui s'est engagée dans la religion et l'autre qui s'engage vis-à-vis de son mari et vis-à-vis de la société. C'est une belle opposition, une belle dynamique, des beaux parallèles. Donc pour moi, c'est une photographie qui est typiquement documentaire.
Oui, alors que l'amour serait dévoilement, mais nous ne la voyons pas dans l'image.
Exactement. Une autre photographie qui, pour moi, est documentaire, c'est cette scène où on voit des jeunes dans une boîte de nuit avec une danseuse du ventre qui fume et qui a les cheveux libres et qui parle librement avec un jeune homme dans une ambiance un petit peu feutrée de boîte de nuit. Je trouve cette photographie très, très belle. C'est de l'enquête ici. On est aussi dans le réel, mais on va au-delà du réel, on va au-delà du fait. Ici, on est vraiment dans des choses qui nous font réfléchir. Et je pense que le documentaire, autant que le reportage, mais un peu plus, c'est de nous montrer un point de vue et de nous faire réfléchir par rapport à ce point de vue. En tout cas, ce qui est montré par rapport au réel. Et ici, c'est une très belle image où on voit également dans le fond, avec une profondeur de champ assez courte, des jeunes filles qui discutent en tenant un verre à la main dans le fond de la salle. C'est une très belle photo de mixité.
Mais moi, j'avais envie de matérialiser un peu ce que c'est la rue égyptienne et cette formidable énergie justement qui se traduit jusque-là, et aussi le passage du temps et des couches. Il s'est passé beaucoup de choses en 5 ans. Moi, j'ai passé beaucoup de temps là à essayer de m'imprégner de tout ça, et j'avais envie de transmettre ça sur ce mur.
Génération Tahrir, avec les voix de Pauline Bonnier, Xavier Cannon, America Parasmar.
Si dans le premier on est vraiment dans l'instant, dans le deuxième on est dans la réflexion, dans le temps et dans le faire passer un message. Et c'est pour ça que je dis que cette exposition est en 2 temps, puisque la révolution est vécue de l'intérieur, mais de manière très journalistique, très directe, avec des, je ne dirais pas des stéréotypes, mais disons des formes que l'on a déjà vues, que l'on reconnaît du photojournalisme. Et puis d'un autre côté, on a ce parti pris documentaire où il y a une réflexion qui est apportée à l'esthétique de l'image, aux ambiances, mais également aux compositions qui sont un peu plus réfléchies. Donc c'est cette différence-là que je fais, au niveau formel en tout cas.
Je publie aussi, comme Xavier l'a dit, mon premier livre aux éditions du Bec en l'air, avec les dessins d'un artiste égyptien qui s'appelle Amar Aboubak. Et en fait, là, sur cette photo de fond, c'est une figure qu'il avait peinte, qui a été recouverte par l'armée. C'était la figure d'un général, le général El-Batran, qui s'est retourné contre la police pendant la Révolution, et donc qui était considéré par les révolutionnaires comme un héros. Et ça n'arrangeait pas trop, évidemment, la police et l'armée d'avoir cette figure-là de chez eux, un peu en traître, dans la rue du Caire, et donc ils l'ont recouverte.
Et moi, je la ferai du point de vue de l'auteur.
Ah voilà, également. Quoique, qui n'a pas toujours dit que, et c'est pour ça qu'il a fondé Magnum, c'est une manière de voir le monde également, donc c'est à la fois établir des faits, mais avec le regard de l'artiste. Donc, pour moi, les deux, il y a un regard de l'artiste, mais dans le premier, on travaille vraiment sur le fait immédiat, et dans le second, on travaille beaucoup plus dans un fait qui est là, mais à plus long terme, plus une réflexion, une enquête de terrain, on fouille, on recherche. Et là, moi, je pense qu'il y a aussi cet effet de temps. Le temps est raccourci. Dans le reportage, le temps est beaucoup plus court. Dans le documentaire, le temps est beaucoup plus long. Mais dans les deux, l'empreinte de l'artiste y est. Sinon, on aurait toutes les mêmes photographies. Hein.
Les sons vocaux,
si, j'enregistre tout, le moindre chuchotement,
même les secrets.
Donc, ce que j'aime bien aussi dans ce travail de Pauline Beuny, c'est ce travail contre les préjugés qu'on a du monde arabe, et surtout cette jeunesse qui est partout la même, qui est en quête de liberté, de démocratie, et qu'on retrouve dans ces photographies-ci, comme si c'était un message universel. Je trouve ça très très beau. Je trouve ça aussi très très beau, cette photographie où on voit cette foule, une foule dans un concert en pleine rue, avec une dominante de couleur rouge. On se situe non pas à l'avant de la scène, mais à l'arrière, avec une population, une jeunesse. Je vois qu'il y a des tout petits garçons, donc ça va de 8-9 ans à des adultes, et qui, on se situe donc ici à l'arrière de la scène, et qui se dirigent vers ce point lumineux où justement devant eux, il y a un concert. Quoi de plus beau? Donc la jeunesse est partout pareil, on cherche toute la liberté, la démocratie et surtout le plaisir d'être ensemble, ce qui parfois dans le monde arabe est difficile. Donc j'aime beaucoup ces images-là.
America Parasmar.
Très belle photographie où on voit des femmes qui rient avec leurs enfants ou parfois des scènes de plage qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le monde arabe. Là aussi, on se dit quand même que l'autre n'est pas différent de soi.
Pourquoi on n'a pas l'habitude de voir une scène de plage?
Tout simplement parce que dans le contexte actuel politique, en tout cas du monde arabe, c'est difficile de voir une femme un peu dénudée. Donc on cache plutôt le corps des femmes plutôt que de le montrer.
Ici, elles sont en bikini. Hein.
Ici, elles sont toutes en bikini. Elles profitent du soleil librement. Je crois que c'est ça que recherche la jeunesse aujourd'hui. Et cette exposition le montre très bien.
Conclure, Charlotte Doyen, par... ces mots que me dit Georges Vercheval, qui a fondé le musée de la photographie à Charleroi, où nous parlons, c'est qu'en 1998, il a fait une exposition sur les 30 ans de mai 68. Mmh. Et cette exposition a permis, me dit-il, d'acquérir nombre d'images.
Oui, tout à fait.
Si bien que le fond que vous avez montré au Jacques Franck participe d'une acquisition qu'il a faite 30 ans après les événements, mm-hmm. se marque le rôle d'un directeur de musée, mm-hmm. De pouvoir augmenter le fonds important, historiquement important, par des images acquises.
Oui, on est tout à fait d'accord. Puis c'est toujours des occasions aussi, tout à fait, l'anniversaire des 30 ans de mai 68, de faire grandir sa collection d'images qui sont importantes pour l'histoire de la photographie, puisque ici on est vraiment un musée destiné à l'histoire de la photographie. Et c'est ce genre d'occasion qui permet d'enrichir une collection au même titre, puisqu'on est aujourd'hui aux 50 ans de mai 68. On a de la même manière acquis récemment deux Claude Raymond dit Yvon, qui viennent compléter en fait notre collection, dont un est issu des événements de mai 68. Alors c'est dans la même optique et on reste toujours fidèle à cette logique. Je crois que c'est aussi c'était une belle opportunité aussi que le Jacques Franck nous contacte ici au musée de la photographie pour nous permettre en fait d'exposer ces images, parce que si un des rôles du musée c'est bien sûr d'enrichir sa collection, l'objectif aussi d'un musée c'est de la montrer, et ici c'était une magnifique occasion en fait de la sortir de nos collections. Et c'est vrai qu'avec ma collègue Adeline Rossion, on a vraiment profité de l'occasion pour exhumer ces trésors un peu de nos collections, même si une partie était montrée dans notre collection permanente. Quatre d'entre elles en fait étaient montrées de façon permanente dans notre musée, mais ça nous a vraiment permis de sortir d'autres images et de les exposer dans ce bel espace au Jacques Franck. Donc c'est une belle continuité aussi, en fait.
Une exposition qui se tient jusqu'au...
Qui se tient jusqu'au dimanche 9 septembre au Centre culturel Jacques Franck de Saint-Gilles.
Et intitulé « Les bruits de l'image ».
Tout à fait.
Bruxelles était de la photographie, second volet. Au botanique, Joseph Koudelka, Invasion Prague 68. Avec Annie Valentini, Andreas Hauser, Marie Papazoglou, Georges Vercheval. Au Centre culturel Jacques Franck, les bruits de l'image, avec Charlotte Doyen, Génération Tahrir, avec les voix de Pauline Beuny, Xavier Cannon, America Parasmart. Au Palais des Beaux-Arts, Résiste, avec Christine Ayenné. Le Monde Invisible est une émission de Thierry Genicot. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.